Elisabeth est venue me dire dans l'oreille, parce que ça va encore dans la même continuité. Elle disait que certaines personnes disaient dans leur cœur, mais comment voir la gloire de Dieu? Tu me corriges si je me trompe, hein, Élise. Mais comment voir la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Et elle vous invite vraiment à lire Ézéchiel 10 et Ézéchiel 40. Vraiment, lisez ces passages parce qu'ils vont vous parler de la gloire de Dieu. Amen. Et mon objectif ce matin, c'est de vous parler un peu des bénéfices du doute. Vous connaissez l'expression « les bénéfices du doute » ? On lui accorde le bénéfice du doute. Vous connaissez ça ? Non ? Je suis le seul Français à connaître cette expression ? Ah, ça va, il y a des Anglais qui connaissent, il y a Rita, il y a Fred. Est-ce que vous connaissez l'expression « avoir le bénéfice du doute » ? Vous connaissez l'expression. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours le bénéfice du doute. Et je pense que dans la foi, c'est encore pire. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer mon partage par une histoire. Et voilà l'histoire, c'est un artiste peintre qui se rend dans la galerie qui expose ses œuvres. Et puis il y va pour savoir un peu comment ça se passe. Et là il y a le gars qui tient la galerie qui dit « Écoute, j'ai deux nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise. » Je vais commencer par la bonne. En fait la bonne nouvelle c'est ça, c'est que un gars est venu et m'a demandé si je pensais que tes toiles allaient avoir de la valeur après ta mort. Alors, je lui ai dit oui, assurément, parce que c'est quand même un artiste. C'est un grand artiste. Quand vous regardez un peu, regardez le coup de pinceau, c'est vraiment un grand artiste. Et alors le gars, il a tout acheté tes toiles. Alors l'artiste est content, il est vraiment heureux. Il dit, mais attends, après une nouvelle comme ça, tu viens de me dire que tu viens de vendre 18 toiles à moi, mais après une nouvelle comme ça, qu'est-ce qui peut être pire quoi? Comment il peut y avoir une mauvaise nouvelle derrière? C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, ben, c'est que c'est ton médecin. Voilà. Je pense qu'il n'y a que Rita qui a compris ma blague. Je vous laisse digérer. Mais moi, je pense qu'après une nouvelle comme ça, on pourrait avoir des doutes. Imaginez l'état d'esprit du peintre. Imaginez un peu son état d'esprit. Qu'il soit en bonne ou mauvaise santé, le doute s'est installé. Le doute va commencer à le ronger. Et je pense que tout ça, ça peut mener loin. Dépression, peur, manque d'inspiration, suicide et que sais-je encore de plus grave. Est-ce que vous savez ce qu'est le doute ? Alors, j'ai pris une définition du dictionnaire. Le doute. Le doute, c'est une incertitude concernant quelque chose. C'est un état naturel de l'esprit qui s'interroge, caractérisé à des degrés différents, soit par l'incertitude concernant l'existence ou la réalisation d'un fait, soit par l'hésitation sur la conduite à tenir, soit par la suspension du jugement entre deux propositions contradictoires. À part Elisabeth qui a fait du droit, personne n'a compris. On est d'accord. Hein. Moi, j'ai dû la lire trois fois avant de la comprendre, hein, parce que c'est quand même, il faut la digérer, celle-là. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le doute est un état naturel. Le doute, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Qui n'a jamais douté dans sa vie? Moi, j'aime bien quand je pose des questions, personne ne lève la main. Ça me rassure, je ne me sens pas tout seul. Alors, qui n'a jamais douté? Ben, on a tous douté un jour. Mais si le doute, c'est quelque chose de naturel, on sait que la foi touche au surnaturel. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Avoir la foi en Dieu doit éloigner tout doute. Le doute ne peut pas subsister quand on a la foi. Si j'ai la foi, je peux obtenir toutes les grâces de mon Dieu. Et le doute les fait s'éloigner. Je vais juste commencer par citer Marc 11, 24. Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Waouh. Ça, moi, c'est un verset qui m'encourage à chaque fois que je le lis. Et même quand on prie à Waterloo, j'hésite pas à me rappeler ce verset avant de prier. Tout ce que je demande en priant, je dois croire que je l'ai reçu et je vais le voir s'accomplir. Dans ce verset, on ne nous dit pas, tout ce que vous demandez en priant, imaginez qu'il est possible que ça s'accomplisse. Croyez que ça va s'accomplir. C'est un impératif. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. On constate ici que la foi va générer la grâce. La foi va générer même la gloire de Dieu. Parce que Dieu va faire ce que vous lui demandez. Or, il y a un passage dans la parole de Dieu où on nous parle de demander la sagesse. Celui qui veut la sagesse la demande. On trouve ça dans Jacques. Et moi, je vais vous prendre juste le Jacques, chapitre 1, les versets 6 et 7. Et vous allez voir que le doute n'a pas sa place dans la foi. Le doute n'a pas sa place dans l'attitude chrétienne que nous devrions avoir. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme, écoutez bien le verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Waouh ! Alors au départ, on nous parle de la sagesse, que celui qui veut la sagesse la demande. Mais le verset 7 nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quoi que ce soit. On va au-delà de la sagesse. Est-ce que vous lisez comme moi ? Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. On ne peut pas avoir de doute quand on demande à Dieu quelque chose. Amen ? Si tu as un doute, ne demande pas. Si tu as un doute, ne demande pas, parce que tu vas demander quelque chose que tu ne vas pas avoir. Amen. Et bien souvent, on sait qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu qu'on n'aura pas. Je suis déjà demandé 2 ou 3 Ferrari, toujours pas reçu. J'attends encore. Des fois, je regarde dans mon garage. En même temps, s'il la mettait dans mon garage, je serais bien embêté parce que je ne pourrais pas la sortir. Il est bouché par un mur. Mais... À quoi ça va me servir une Ferrari ? J'ai pas besoin d'une Ferrari. Et puis franchement, j'ai des doutes que Dieu va me la donner. Donc, moi, je ne demande plus. Je ne demande plus. Si vous doutez, ne demandez pas à Dieu. Si tu doutes, tu n'obtiendras rien. Et Jude 1, 22 va même plus loin que ça. Parce que moi, je trouve que un mot que j'aime pas dans mon vocabulaire, c'est la pitié. J'aime pas avoir de la pitié pour quelqu'un. Je trouve que c'est un sentiment qui rabaisse la personne. C'est vraiment ce que je ressens. Si jamais j'ai de la pitié pour quelqu'un, ça veut dire que je le considère comme inférieur à moi. J'aime pas avoir ce sentiment-là en moi. Et pourtant, Jude 1, 22, 23 nous dit « Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. » Ayez de la... Ça veut dire que on doit vraiment avoir mal au cœur pour eux, quoi. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant du feu pour les autres. Ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant moindre contact qui pourrait vous contaminer. Waouh. 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 Le doute peut nous contaminer. Vous lisez ça ? Est-ce que vous lisez ça ? Le doute peut me contaminer. C'est-à-dire que si quelqu'un doute plus fort que ce que moi je crois, il peut m'entraîner dans sa chute. C'est pas terrible ça ? Le doute peut me contaminer. Ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact. J'ai l'impression que le doute, c'est comme un virus mortel. Un virus mortel. Mais c'est un virus mortel parce qu'il va m'éloigner de mon Dieu. Amen. Le doute. Éloignez le doute. Michel Allard disait « doute de tes doutes ». Ah, moi j'aime bien ça. Doute de tes doutes. Le doute peut entraîner la chute et peut entraîner la perte de la foi. Fred, est-ce que tu peux baisser les retours ? J'ai pas besoin de retour. Il n'y a pas de... Ben, je sais pas pourquoi ça va l'arsène. Alors. Il est trop haut, je vais le baisser un peu. Merci Paul, tu as une idée ? Je sors l'émetteur. Ah, oui, bien sûr. On clipse derrière. Je vous explique, hein, c'est très bien, c'est technique, hein, la technique. Logique. Qu'est-ce qu'on trouve à l'inverse du doute ? La foi. Le doute, c'est une incertitude concernant quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Contre le doute, on a la certitude. La certitude. Ça va même au-delà de la foi, parce qu'on a la foi. Mais est-ce qu'on a la foi au point de dire « je suis sûr et certain » ? Est-ce qu'on a la foi au point de dire « c'est certain, Dieu va le faire » ? Ou est-ce qu'on a juste la foi pour dire « Oui, je crois que Dieu peut le faire. » À l'inverse du doute, on a la certitude. Romains 8, 38. « Oui, nous dit Paul, j'ai l'absolue certitude. » Waouh, ça j'aime bien. Ce n'est pas une petite certitude, hein, vous remarquez. C'est l'absolue certitude. Ça veut dire que sur ce point-là, il est inébranlable. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a témoigné, pardon, en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai l'absolue certitude. Autant Paul peut peut-être, à l'occasion, montrer des défaillances, peut-être que vous avez lu, moi non, mais dans la parole de Dieu, que Paul a eu des doutes. Mais alors, demandez à Paul si quelque chose peut l'éloigner de l'amour de Dieu, peut le séparer de l'amour de Dieu. Il a l'absolue certitude. L'absolue certitude. Ça veut dire que là-dessus, il est inébranlable. Il est inébranlable. Et moi, quand j'ai lu ce passage, je peux vous garantir que ça m'a fait un bien fou à la fois. Parce que tout comme Paul, je me suis dit, ok Paul, toi qui as assisté au lynchage d'Étienne, toi qui persécutais les chrétiens, toi qui étais un homme mauvais, pas selon la loi hébraïque, toi qui étais un homme mauvais selon le cœur de Dieu, toi que Dieu a arraché des ténèbres, toi qui t'es converti, tu peux avoir cette absolue certitude. Alors moi je sais, Fred, que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, Dieu m'aimera toujours autant, de la même manière, et il est au taquet. Amen. Est-ce qu'il y a le moindre doute qui subsiste dans ma tête? Je peux dire comme Paul, j'ai l'absolue certitude. Et là, je ne doute pas. Mais quand je prie pour un malade, parfois je doute. Quand je prie pour un miracle, parfois je doute. Quand je prépare un message, parfois je doute. Quand je parle avec des amis, parfois je doute. Moi, je suis faillible. Mais Dieu n'est pas faillible. Et Dieu me demande de balayer mes doutes, d'avoir une absolue certitude. À l'inverse du doute, je dois avoir l'absolue certitude. Pour l'apôtre Paul, le doute n'a aucune place. Et il parle. Et moi, j'ai quelques questions à vous poser. Es-tu sûr de l'existence de Dieu? Vous répondez dans votre tête, hein. Es-tu sûr de l'existence de Dieu? Es-tu sûr de son amour pour toi? Est-ce que tu as l'absolue certitude du sacrifice de Jésus? Est-ce que tu es sûr que les promesses de Dieu sont pour toi? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut ton bonheur? Si tu peux répondre oui à toutes ces affirmations, alors tu dois balayer le doute de ta vie. Le doute n'a aucune place à avoir dans ta vie, n'a aucune place à avoir dans ta foi. Si tu réponds oui à toutes ces questions, mais que vient faire le doute? Si ce n'est que t'apporter une pollution, un virus qui peut grandir, grandir et grandir encore. Le but n'a que pour seul objectif de créer ta chute. Il veut t'emmener avec lui. Il veut t'emmener avec lui. D'abord, tu doutes d'une chose, puis finalement, se pose même la question, quel est l'intérêt de croire en Dieu? Je fais court le chemin, hein, mais toutes les personnes que j'ai vues chuter, toutes les personnes que j'ai vues s'éloigner de la foi de Dieu, ça a commencé par un petit doute. Et ils ont laissé le doute vivre. Ils l'ont laissé grandir. Ils ont commencé à côtoyer des gens qui, comme eux, ne croyaient pas où ça, où ça, où ça. Et finalement, on s'éloigne de la grâce. Finalement, on s'éloigne même de juste la foi chrétienne. Le doute est une gangrène. La foi, au contraire, elle suscite la foi. Vous allez me dire, comment la foi peut susciter la foi? Ben, c'est pas compliqué. Plus j'ai la foi, plus je prie. Amen. Et plus je prie, plus je crois. Plus je crois, plus j'ose. Plus j'ose, plus... Ça, c'est difficile à dire. Hein. Plus j'ose, plus je vois et je reçois. Et plus je vois et plus je reçois, et plus j'ai la foi. Amen. La foi suscite la foi. Si tu as la foi pour prier pour un malade, mais que tu ne pries pas pour lui, Il ne va pas guérir. Tu ne vas pas voir qu'il va guérir. Et donc, tu vas juste croire que Dieu peut guérir. Si tu as la foi que tu peux le guérir par la prière, prie pour lui. S'il ne guérit pas, commence pas à douter. Mais s'il guérit, ta foi va grandir encore. Amen. Vous connaissez tous pour la plupart Vincent Esterman. Vous connaissez Vincent Esterman? On connaît un peu Vincent Esterman hein, ici. Si vous ne connaissez pas Vincent Esterman, il vient à Pâques. Vous aurez toute l'occasion de connaître Vincent Esterman. Et quand Vincent Esterman a à cœur de prier pour les malades, vous allez voir, et vous allez le constater, mais il me l'a dit, donc je sais que c'est vrai, il va toujours commencer par prier pour les gens qui ont des problèmes de dos. Bah, pourquoi, Fred? Tout simplement parce que Vincent, un jour, a prié pour quelqu'un qui avait des problèmes de dos, et la personne a été guérie instantanément. Waouh, il était heureux, ça a fait du bien à sa foi. Et donc, il sait qu'aujourd'hui, ça, il a déjà vu faire par Dieu. Donc, il va d'abord, pour susciter la foi des autres et susciter même encore plus sa propre foi, il va d'abord prier pour les problèmes de dos. Et après, il priera pour autre chose. Mais parce qu'il veut encourager sa propre foi à croire. Et il sait que Dieu peut le faire. Amen. Personnellement, je n'ai jamais vu d'aveugle voir. Je n'ai pas vu de sourd entendre. Je n'ai pas entendu de muet parler. Mais j'ai déjà eu l'occasion aussi de prier pour des gens. Et il s'est passé des miracles. Moi, j'appelle ça un miracle parce que... Je suis tellement qui ? Je suis tellement personne pour recevoir ça de la part de Dieu. On est tellement personne pour recevoir une grâce que quand il se passe quelque chose, moi je suis encouragé et ma foi elle monte comme ça. Et j'ai l'impression qu'après je peux déplacer les montagnes. Mais la foi suscite la foi. La foi c'est pas se demander comment Dieu va faire quelque chose. La foi c'est savoir qu'il va faire quelque chose. Amen. Peu importe comment. Je suis stupéfait dans la parole de Dieu quand vous voyez Jésus qui vient voir un aveugle. Le premier lui dit « ta foi t'a guéri ». Le second, il va cracher dans la boue, il va frotter ses yeux. Un troisième encore, je ne sais pas, je ne me souviens plus de tout ce qui... Mais il ne fait jamais la même chose, Jésus. Vous avez remarqué? Les gens, il ne les guérit pas de la même manière. Les miracles, il ne les fait pas de la même manière. Mais à chaque fois, il agit. Ne nous attendons pas à avoir une répétition de la part de Dieu. Soyons juste dans l'attitude. On ne se demande pas comment il va faire, mais on est sûr qu'il va faire. C'est ça la foi. Comment il va le faire, ce n'est pas mon problème. Moi, à la rigueur, j'ai vu des choses un peu ridicules, mais l'essentiel, c'est le résultat. Amen. C'est ça l'essentiel. Quand, moi, je ne sais pas, mais je verrais un homme cracher dans de la boue et mettre dans la terre et mettre la boue sur mes yeux. Mais bon, c'est pas très propre. Ben non, mais c'est vrai, quoi. Vous trouvez ça propre, vous? Ben non, c'est pas très propre, mais l'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est le résultat. Ne te demande pas comment Dieu va faire. Crois qu'il va le faire. Il y a peu de temps, c'était... L'année dernière, je suis parti à la retraite pastorale. Il y en a une qui a lieu en janvier. Et je vais vous raconter un peu le miracle, parce qu'il s'est produit un miracle. J'avais décidé d'y aller, enfin, Sylvie avait décidé de venir avec moi. J'étais vraiment encouragé. C'est toujours un plaisir quand une femme accompagne son mari quelque part. Et là, on partait pour une retraite spirituelle. Ça allait être un moment fort. Et puis, voilà que... elle avait l'occasion de venir avec moi. Et puis, d'un seul coup, le doute s'est emparé d'elle. Ouais, on est quand même parti jeudi, vendredi, samedi. Les enfants vont être tout seuls. Vous savez qu'elle travaille beaucoup. Elle avait l'occasion de passer 3 jours avec les enfants. Les enfants vont être tout seuls. Bon, c'est vrai, sa mère venait à la maison, mais c'est pas pareil. Et puis, le doute s'est installé. Est-ce que je devrais pas rester à la maison avec les enfants? Et puis je lui dis, écoute, j'aimerais vraiment que tu viennes. Je sais que ça va être un bon moment, ça va être un moment fort. Viens avec moi. Et le doute s'installe vraiment pleinement. Et puis, elle me dit, non, je ne vais pas venir. Oh là, j'étais un petit peu déçu. Et je dis, Seigneur, j'aimerais qu'elle vienne. Alors, je prépare mes affaires. Je suis prêt à partir, je vais la voir. Je dis, bon allez, prépare ton sac, viens avec moi. Elle me dit, non, je ne viens pas. Je reste parce que les enfants, je manque aux enfants. Les enfants me manquent, donc je ne viens pas avec toi. Mais je savais qu'elle devait venir. Je monte dans ma voiture et vraiment, j'étais un petit peu triste. Et je commence à rouler, donc j'habite Waterloo. Je commence à rouler Et puis, le Seigneur me dit, ta femme doit venir. Alors je dis, ben, Seigneur, convainc-la. Convainc-la. Puis vous savez, en général, en route, quand je prends l'autoroute, je fais attention, je mets mon téléphone en général sous silencieux. Il vibre comme ça. Si jamais j'ai envie de décrocher, je vais le prendre et je vais regarder vite fait ce que c'est. Si jamais c'est urgent ou important, je décroche ou pas. Mais donc, il était en silencieux dans ma poche. Et puis, je roule et je me dis, Seigneur, je te demande au nom de Jésus maintenant de toucher son cœur à la maison. Et j'étais déjà parti. Touche son cœur. Je prends mon téléphone. Je le mets en mode non silencieux parce que je veux entendre si elle m'appelle. Et je me dis, mais c'est ridicule, Fred. Tu viens de demander à Dieu de toucher le cœur de ta femme pour qu'elle vienne. J'étais parti déjà. Appelle-la et insiste. Et au moment où je débloque mon téléphone, il sonne. C'était elle. Et elle me dit, elle m'appelle Nounou. Hein, donc. Elle me dit, Nounou, je pense que j'ai fait une bêtise, je veux venir. Alors je lui ai dit, écoute, je fais demi-tour, j'arrive. Dieu m'avait dit que c'était important pour elle de venir. On a vécu une retraite pastorale bénie, extraordinaire. C'était vraiment des très bons moments pour tous les deux. Et j'avais ce passage dans le cœur qu'on trouve dans Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Balayez les doutes, mes amis. C'est pas si tu doutes, tu verras la gloire de Dieu. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dites-vous ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dites-vous ça les uns aux autres. Insistez bien sur le « si tu crois ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ambroise, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Amen. Manu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut voir pour croire. Mais Jésus nous invite à croire pour voir. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Crois et tu vas voir. Si on analyse les modèles dans Hébreux 11, les modèles de la foi, on s'aperçoit que c'est la foi qui a fait la différence dans leur vie. C'est pas leur courage, c'est pas leur force. Ce n'est pas leur détermination, c'est uniquement la foi. Élise vous a invité à lire Ézéchiel 10 et 40, moi je vous invite aussi à lire Hébreux 11. Et on va lire ensemble juste le premier verset, on va le prendre dans deux versions, la seconde et la semeur. Parce que je vais prendre la seconde parce que c'est plutôt le passage qu'on connaît, la seconde. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le verset qu'on connaît bien. Amen. Mais si on le lit en version semeur, une version plus proche de notre langage, on lit que la foi est une façon de posséder, vous lisez bien, une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Alors l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est bien beau, ça m'a parlé longtemps, mais quand je lis cette version semeur, c'est une façon de posséder ce que j'espère et un moyen d'être sûr des réalités que je ne vois pas, ça me parle encore plus. Amen. Et si on prend quelques versets plus loin, mais je vous lirai ça après, je pense que j'ai le verset 11.6 aussi, oui c'est ça, Hébreux 11.6, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça aussi, c'est un verset qui me parle beaucoup. Parce que, vous savez, on a l'habitude de dire que toute peine mérite salaire. Vous connaissez aussi cette expression. Toute peine mérite salaire. Eh bien, même le fait de croire nous rapporte quelque chose. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si je crois, je vais avoir quelque chose en retour. Je vous invite pas à croire pour commencer à vous dire, bon, ça y est, mon compte en banque ne sera plus jamais en débit, je vais pouvoir m'acheter une belle bagnole et puis je vais faire du shopping demain. C'est pas ça. La rémunération, c'est pas que de l'argent. C'est un retour sur investissement, une rémunération. C'est je fais quelque chose et en retour, j'obtiens aussi quelque chose. C'est le principe de Dieu. Tu donnes, alors tu reçois. Amen. Puis enfin, si j'ai un dernier argument pour vous dire que le doute est mauvais, bien je peux aussi vous dire que si le doute est mauvais pour nous, le doute est aussi mauvais pour Jésus. Quand tu doutes, tu nuis à Jésus. Alors, est-ce que je peux nuire à Jésus, moi, ici, en 2013 ? Excuse-moi, Fred, mais j'ai quand même un peu de doute. Alors, je vais vous partager un verset qui m'a interpellé, particulièrement pour un mot, c'est Hébreux 12:2. Hébreux 12:2, ça m'a calmé. Qu'est-ce qu'il y a une voix forte pour lire Hébreux 12:2, là, maintenant ? On va le projeter. Qu'est-ce qu'il y a une voix forte pour me dire ça ? Vas-y, Rita. Voilà. Est-ce qu'on lit bien la même chose ? Jésus est le consommateur de ma foi. Alors moi qui ai fait un peu de marketing, le mot consommateur, tout de suite, ça m'a parlé. Et j'étais surpris de voir ce mot-là dans la Bible. Parce que pour moi, la Bible n'a rien à voir avec le marketing. Hein. Mais dans la Bible, je vois le mot consommateur. Tiens. Alors d'abord, j'étais surpris. Et parce que c'est un mot aussi qui me paraît tellement récent, le mot consommateur. En fait, ce qui est récent dans le mot consommateur, c'est que on l'a enfin déterminé, on lui a mis une définition bien plus complexe qu'elle n'est à l'origine. Alors, c'est quoi un consommateur ? Pareil, j'ai une définition. Le consommateur, c'est une personne, ou une chose, hein, mais c'est d'abord une personne, qui consomme quelque chose, en particulier un matériau, une source d'énergie. Et quand vous voyez ça, ben vous dites, on est tous des consommateurs. Vous êtes des consommateurs. Vous mangez. Parce que vous jeûnez en plus. Non, vous mangez. Oui, vous buvez. Oui, vous avez un téléphone portable. Vous avez Internet. Il y en a qui ont de la chance, ils n'ont pas Internet. Moi, je peux malheureusement plus m'en passer. Et j'aimerais bien, mais on est des consommateurs dans la vie de tous les jours. Vous avez une voiture, vous prenez le bus. On est des consommateurs. On a des choses qui sont mises à notre disposition et on les prend. Est-ce qu'on les prend ? Vous savez, on a la pyramide de Maslow. Alors, Maslow a fait une pyramide des besoins. Il y a des choses qu'on a vraiment absolument besoin. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin tout le temps. Est-ce qu'on a besoin de regarder la télé ? Non, on n'a pas besoin de regarder la télé. On aime bien regarder la télé. Et on consomme de la télé. Est-ce qu'on en a besoin ? Non. Par contre, on a absolument besoin d'eau pour vivre. On a absolument besoin de nourriture pour manger et pour vivre. On a absolument besoin d'air. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, on est des consommateurs. Alors, si on prend les besoins basiques, c'est d'abord boire et manger. Je ne parle pas de respirer parce que boire et manger, tout ça, ça coûte. Eh bien, on est des consommateurs. Et moi, je lis que Jésus est le consommateur de ma foi. Ça veut dire que si aujourd'hui je doute, si aujourd'hui je n'ai pas la foi, je dis à Jésus, tu jeûnes aujourd'hui. Tu m'as bien compris, Jésus, tu jeûnes. Parce que je doute. Et que tu sois le consommateur de ma foi, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, je ne t'en donne pas. Quand je doute, je nuis à Jésus. Et si je doute un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, 40 jours, je le remets dans le désert. Tu jeûneras pendant 40 jours. Et si je jeûnais pendant 2-3 mois ? Et puis tout compte fait, et puis si je jeûnais à vie, quoi. Mes amis, même quand tu doutes, tu es en train de nuire à Jésus. Parce que tu ne donnes pas à Jésus ce dont il a besoin pour exprimer sa grandeur envers toi, pour exprimer toute la gloire de Dieu, pour exprimer tout l'amour qu'il a pour toi. Amen. Quand tu doutes, tu l'empêches de bénir. Quand tu doutes, tu l'empêches de se glorifier. Quand tu doutes, tu l'empêches juste d'être lui dans ta vie. Le doute, c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors, quand on doute, soyons attentifs. Vous savez, je pense que le meilleur vaccin contre le doute, c'est la foi. On est d'accord. Et le meilleur vaccin contre la foi, c'est le doute. De quoi tu veux être vacciné aujourd'hui ? De quoi tu veux être vacciné aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie d'être vacciné de la foi ? Ça me rassure. Est-ce que tu as envie d'être vacciné du doute ? Ah non plus, tu ne veux pas être vacciné du doute. Est-ce que tu as envie d'être vacciné du doute ? Je vais faire un peu mon frais de poule. Là, il t'est marqué qu'ils vont crier « Amen », donc tu vas devoir attendre un petit peu. Est-ce que vous avez envie d'être vacciné du doute ?
Amen !
Amen ! Moi, j'ai envie d'être vacciné du doute. J'ai plus envie que le doute puisse encore me pourrir la vie. Amen ! Est-ce que tu as envie d'être vacciné du doute ?
Amen !
C'est quand même un peu timide, hein ? Ah, on va rembobiner. Est-ce que tu as envie d'être vacciné du doute ?
Amen !
Amen ! Est-ce que tu as envie que le doute il s'écrase dans ta vie ?
Amen !
Amen ! Alors, ce que je vous propose, c'est que ce matin-là, maintenant, on va prier, on va demander à Dieu de nous séparer de nos doutes. On va déposer nos doutes au pied de la croix. On va les déposer et on va avoir la même attitude que les apôtres qui ont dit à Jésus dans Luc 17, 5, « Augmente-nous la foi ». Alors, la réponse de Jésus, elle est surprenante, mais ce que surtout je lis dans la réponse de Jésus, vous lisez hein, Luc 17, 5, 6, 7, je pense que ça va jusqu'au 9. Lisez la réponse de Jésus qui nous parle de même, si on avait la foi comme un grain de moutarde, on pourrait faire déplacer un arbre. Jésus est en train de te dire, si tu veux être débarrassé du doute, crois. Tu veux augmenter ta foi, crois. Et crois encore, et crois toujours, parce que la foi suscite la foi. Amen ? Alors j'aimerais, je ne suis pas du genre à faire des appels, mais on va pas s'approcher, mais si on a des doutes, on va se lever maintenant. S'il nous arrive d'avoir des doutes, s'il nous arrive d'avoir des choses qui nous pourrissent la foi, lève-toi où tu es. Et ensemble, on va déposer ça au pied de la croix. Si tu arrives de dire, ben oui, Dieu peut faire ça, mais pas avec moi, alors, et je sais que c'est facile, parce que presque tout le monde peut douter, alors on va déposer ça ce matin au pied de la croix. Amen. Parce que Dieu veut que tu déplaces des montagnes dans ta vie. Parce que Dieu veut que le doute n'ait aucune place. Est-ce que Jésus avait des doutes ?
Non.
Jésus n'avait aucun doute. Pour Jésus, le doute n'existait pas. Alors après, on va continuer de louer Dieu ensemble. On va faire aussi la dîme. Et là aussi, parfois dans la dîme, on doute. On dit, mais j'ai pas d'argent, comment je peux donner ? Balaye le doute et honore Dieu avec ce qu'il te demande. Amen. Puis après, on finira par les annonces, par la vie de l'Église. Mais on va d'abord rester concentré sur ce que Dieu nous demande. Ce matin, on est venu lui rendre un culte agréable. C'est ce qu'on est venu faire. Amen. Moi, la première chose que j'ai faite ce matin en me levant, c'est « Oh, aujourd'hui, je vais à l'Église, je vais rendre un culte qui est agréable à Dieu. » Mais puisque je veux rendre un culte qui est agréable à Dieu, il est impératif que dans mon cœur, il y ait des choses qui n'aient plus leur place. Et le doute n'a plus sa place. Amen. Parce que quand je viens et que je doute, quand je viens et que je me dis « Mais comment je peux voir la gloire de Dieu ?» Tout est écrit dans sa parole. Lis la parole et reçois ce qu'il veut te dire. Amen. On va prier ici. Je vais commencer, mais surtout si vous voulez prier, ne vous gênez pas. On n'est pas là pour se lamenter, on n'est pas là pour se plaindre, mais déposer au pied de la croix le doute. Amen. Oh Dieu de gloire, Père éternel, je te loue et je t'adore parce que ta parole...